L'heure du journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Vers la fin de la neutralité du net, la Commission fédérale des communications américaines devrait abroger la règle qui contraint les fournisseurs d'accès Internet à traiter tous les services en ligne de la même manière. Explication sur cette décision avec Catherine Pétillon. Un rapport piloté par plusieurs économistes s'inquiète de l'aggravation des inégalités partout dans le monde depuis les années 80. Compte rendu de Kevin Baudreau. Un sommet européen à Bruxelles pour ouvrir la seconde phase des négociations sur le Brexit, mais la première ministre britannique, Theresa May, est affaiblie après un vote au Parlement qui demande de valider tout accord, donc aux communes. Correspondance de Marina Daras. Une estimation de MSF des victimes Rohingyas en septembre, au moins 6700 personnes tuées au cours d'opérations de l'armée birmane. La deuxième conférence des territoires à Cahors aujourd'hui pour réduire la fracture numérique. 100 millions d'euros supplémentaires débloqués en faveur des foyers les plus isolés. Analyse de Stéphane Robert et puis l'invité de la séquence interview en direct de Cahors à la fin de cette édition. Sophie Pantel qui est la présidente socialiste du département de la Lozère. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Le néolithique a tout inventé. L'agriculture, la guerre, les chefs, Dieu, mais aussi l'art. C'est en tout cas la thèse soutenue par notre invité, l'archéologue Jean-Paul Demoule qui publie aux éditions Fayard les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire. Il sera avec nous dans la deuxième partie de la grande table.
On commence par cette victoire du marché sur la neutralité du net. La Commission fédérale des communications américaines se prononce donc tout à l'heure sur l'abrogation de cette règle qui date de la présidence Obama et qui oblige les fournisseurs d'accès Internet à traiter tous les services en ligne de la même manière. C'est ce qu'on appelle donc la neutralité du net. Benjamin Bayard, qui est un militant pour les libertés fondamentales dans la société de l'information, expliquait ce matin sur France Culture la signification précise de ce concept.
En fait, ça signifie que l'opérateur du réseau n'opère pas de discrimination ni sur la source, ni sur la destination, ni sur le contenu. Ça veut dire que je sois en train de regarder un film commercial, par exemple le Star Wars qui sort, ou un contenu publicitaire, ou un film amateur, mon fournisseur d'accès Internet doit le transporter en faisant les mêmes efforts. Ça paraît être du bon sens. Quand j'envoie une lettre par la poste, que ce soit une lettre gentille ou une lettre méchante, le facteur la transporte de la même manière. La neutralité du net, sur le principe, c'est ça.
Benjamin Bayard, donc, avec Guillaume Erner ce matin. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors, on oublie parfois que le numérique a besoin de supports matériels, que le virtuel, ce n'est pas l'infinité. Et donc, les lois économiques de rareté reprennent leurs droits, les lois d'offre et de demande, qui veulent donc aujourd'hui investir le net.
Oui, si le combat autour de la neutralité du net n'est pas nouveau, nous sommes à un moment d'Internet où les contenus à transporter sont plus nombreux, plus lourds aussi, notamment avec la vidéo. La bande passante devient insuffisante, un embouteillage se crée sur la route. Du coup, les transporteurs, en l'occurrence les fournisseurs d'accès, se disent qu'ils pourraient bien en profiter pour changer un peu les règles, avantager certains contenus ou au contraire ralentir le trafic pour d'autres. Autrement dit, favoriser ceux qui les paieront et donc instaurer un péage là où il n'y en avait pas. Principaux arguments de la FCC, l'agence américaine des télécommunications, il n'est pas normal que des services qui consomment beaucoup, comme les gros producteurs de vidéos par exemple, soient traités pareil que les moins gourmands. Et d'autre part, cette neutralité serait un frein aux investissements et donc briderait la concurrence et l'innovation. D'où la volonté d'abandonner les règles actuelles pour restaurer la liberté d'Internet. C'est le nom de la circulaire soumise au vote aujourd'hui. Elle revient sur celle adoptée sous Obama qui définissait l'Internet libre et ouvert comme un service essentiel.
Voilà, liberté contre libre. Donc on comprend bien le débat parfois à front renversé. Décision américaine qui va avoir des conséquences très importantes, et d'abord sur le plan économique, naturellement.
Alors très concrètement, la FCC autoriserait les fournisseurs d'accès à moduler la vitesse du débit Internet à leur guise, en fonction du contenu qui passe dans leurs tuyaux, par exemple pour obtenir plus d'argent ou pour bloquer des services qui leur feraient concurrence. Rappelons qu'aux États-Unis, beaucoup d'opérateurs sont aussi eux-mêmes producteurs de contenu. Pour l'internaute lambda, ça veut dire la fin de l'égalité de traitement, être surfacturé pour accéder à certains services ou avoir un accès ralenti à d'autres. Les opposants craignent un Internet à deux vitesses. On peut en fait même s'attendre à un réseau à 4, 6, 20 vitesses, bref, autant qu'il y aura d'opérateurs privés. C'est donc bien loin, Antoine, d'être seulement une question technique informatique qui ne devrait intéresser que les férus de technologie ou de réseau.
Voilà, c'est pour ça qu'on en parle dans cette édition. Alors, il y a des conséquences économiques. Au-delà, ce sont des questions de principe, on le comprend, qui touchent à la vision, finalement, que l'on a de la société. Voici ce qu'on disait, par exemple, hier, dans Le Grain à Moudre, l'ancienne secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire.
La neutralité du net, c'est aussi un principe qui garantit une égalité d'accès social, parce que ça évite de faire payer selon le poids du portefeuille des consommateurs. Ça permet de promouvoir et de garantir une forme de diversité culturelle dans l'accès et la diffusion de l'information. Sinon, il y a une prime au plus gros. Sinon, ça voudrait dire que ce sont les Netflix et autres qui sont très producteurs de contenu audiovisuel qui passent en premier et parce qu'ils payent les tuyaux et l'accès, eh bien, alors les plus petits disparaissent. Et puis, il y a un enjeu aussi de liberté d'information et de liberté d'expression. Et donc, oui, c'est de l'économie, mais ce n'est pas que de l'économie. Finalement, c'est quand même une certaine conception d'un Internet ouvert et donc universel qui est en jeu.
Axel Lemaire avec Hervé Gardette hier soir, Catherine Pétillon, on le voit, cet enjeu est tout à fait important.
Et aux États-Unis, les pionniers fondateurs d'Internet n'y vont pas par quatre chemins pour le dire. Vous n'avez rien compris à Internet, écrivent-ils dans une lettre ouverte à la FCC. Parmi les signataires, citons entre autres Tim Berners-Lee, inventeur du web et professeur au MIT, Vinton Cerf ou Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Car cette victoire pour les opérateurs est une catastrophe de la vie de tous les défenseurs d'un Internet libre, de la liberté d'expression, de l'initiative individuelle aussi. Sur le web, une campagne de mobilisation, Stop the FCC, tente encore de mobiliser. Des centaines de plateformes comme Reddit, Kickstarter ou Mozilla ont simulé un Internet sans neutralité. En l'occurrence, des contenus chargeant très lentement, des incitations à souscrire un nouvel abonnement pour pouvoir continuer à naviguer sur le site. Une opération déjà menée en juillet dernier. Malgré tout, il y a assez peu de suspense sur le résultat du vote, sauf coup de théâtre. La FCC devrait aujourd'hui changer les règles du jeu.
Merci beaucoup Catherine Pétillon. On salue l'invité de la dernière partie des Grandes Tables qui rentre dans ce studio. Jean-Paul Demoule, bonjour.
Bonjour.
Professeur de proto-histoire. Vous intéressez notamment à ces 10 000 ans qui, oubliés, dites-vous, qui ont fait pourtant l'histoire entre la préhistoire et le développement des grandes civilisations antiques. Voilà, bon, on avait pensé que ça serait peut-être intéressant de mettre en rapport ce sujet moderne s'il en est avec votre spécialité, parce que le problème ne se posait pas de la liberté du net au néolithique, si je ne m'abuse.
Il se pose pas au début, mais à partir du moment où les sociétés deviennent nombreuses et on s'achemine vers des villes, des royaumes, eh bien, on invente l'écriture, et l'écriture et la communication, ça sert à contrôler les populations, et déjà le contrôle de la circulation de l'information va se poser immédiatement, c'est réservé aux dominants, à une caste de scribes, donc, celui qui contrôle la communication contrôle la société.
Voilà, c'est vrai, donc depuis le néolithique, enfin la deuxième partie en tout cas. Merci Jean-Paul Demoule, on parlera de tout ça évidemment plus sérieusement, j'allais dire, non, aussi sérieusement dans la dernière partie de la Grande Table. On passe à ce rapport qui est piloté par plusieurs économistes de renom qui s'inquiètent de l'aggravation des inégalités dans le monde. Inégalités qui se sont fortement creusées, on le sait, depuis les années 80 environ, dans presque toutes les régions. Kevin Baudreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, en un peu moins de 40 ans, un seul chiffre, les 1% les plus riches ont profité deux fois plus de la croissance des revenus que les 50% les plus pauvres.
Oui, c'est vraiment la donnée la plus symbolique de ce rapport. Depuis 1980, la captation de la croissance s'est opérée par une portion toujours plus réduite de la population mondiale. Un phénomène qui met donc à mal la théorie du ruissellement, théorie qui consiste à croire que les premiers de cordée, les plus riches, vont tirer vers le haut le bas de la pyramide. Alors il y a bien un phénomène d'entraînement, mais la corde qui les relie devient toujours plus longue. C'est particulièrement criant aux États-Unis, symbole de la dérégulation du marché. C'est très marqué également en Chine, en Russie, notamment depuis la fin du communisme. Et dans ce rapport, l'Inde décroche la palme avec plus de 55% des richesses aux mains d'un dixième de la population seulement. Au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne ou encore au Brésil, les inégalités restent stables, ce qui s'explique tout simplement parce que ces régions ou ces pays étaient déjà très inégalitaires.
Quel résultat peut-être pour l'Europe aussi ?
Eh bien, les inégalités se creusent également chez nous, mais dans une moindre mesure. Pour s'en rendre compte, il est intéressant de comparer l'Europe avec les États-Unis, même taille, même exposition à la mondialisation et pourtant trajectoire totalement différente, comme l'explique l'économiste Lucas Chancel, c'est l'un des auteurs du rapport.
La part des 1% les plus riches aux États-Unis passe de 10% du revenu total à 20% aujourd'hui. 10% en 80, 20% aujourd'hui. En Europe, ça passe de 10% en 80 à 12% aujourd'hui. Donc, il y a une montée des inégalités en Europe, mais bien moindre qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique ces différences? Eh bien, il y a un effondrement du revenu minimum aux États-Unis, qu'on n'observe pas dans les grands pays européens. Un effondrement de la progressivité fiscale aux États-Unis, qu'on observe bien moins dans les grands pays européens. Un accès extrêmement inégalitaire à l'éducation, à la santé, qu'on observe également dans une moindre mesure en Europe.
Voilà, l'Europe zone la moins inégalitaire, mais pourtant pas épargnée. Les auteurs du rapport tiennent bien à faire, ne pas faire d'angélisme vis-à-vis du vieux continent. Et parmi les solutions qu'ils proposent, la mise en place tout simplement d'un impôt progressif.
Merci beaucoup Kevin Baudreau. Une nouvelle qui ne devrait pas aller dans le sens d'une réduction des inégalités, puisque les chefs de file républicains du Sénat et de la Chambre des représentants parviennent à un accord sur la réforme fiscale qui est voulue par Donald Trump, qui consiste donc à abaisser l'impôt sur les sociétés de 35 à 21%. C'est la plus grande refonte de la fiscalité américaine depuis 1986. Un texte définitif pourrait être présenté dès demain et son vote organisé dès la semaine prochaine. L'ouverture de la seconde phase des négociations du Brexit sera le pas de résistance de ce sommet européen qui va s'ouvrir tout à l'heure à Bruxelles. Les 27 chefs d'État et de gouvernement lancent donc maintenant des négociations sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et le continent. La première ministre britannique Theresa May arrive à Bruxelles au lendemain d'un vote des députés en faveur d'un vote qui demandait que tout accord qui pourrait être signé donc à Bruxelles par Madame May, tout accord final, soit ratifié par un vote contraignant du Parlement, donc des communes. Vote qui évidemment affaiblit un peu la position de Madame May. Marina Daras, bonjour.
Bonjour.
Ça lui donne aussi peut-être paradoxalement un moyen de pression supplémentaire sur les Européens.
Oui, malgré ses efforts pour tenter de convaincre les députés rebelles conservateurs qui avaient déposé cet amendement, Theresa May a essuyé sa première défaite aux communes en perdant ce vote de seulement 4 voix. Le gouvernement avait promis qu'il soumettrait l'accord à un vote parlementaire, mais un groupe de députés, conservateurs et travaillistes confondus, mené par l'ancien ministre de la Justice, Dominic Grieve, réclamait des garanties et voulait absolument inscrire ce vote dans la loi britannique pour que les ministres ne puissent pas revenir sur leurs promesses et finalement faire passer en force l'accord négocié à Bruxelles. Alors d'après le gouvernement, un vote contraignant pourrait compromettre les chances de parvenir à un accord rapide, puisque le Parlement britannique a désormais le pouvoir de renvoyer Theresa May à la table des négociations, hein, si l'accord ne les satisfait pas. Cette dispute malheureusement renforce l'image d'un gouvernement britannique qui se déchire alors qu'il doit faire face à un front européen relativement solide et uni. Le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn parle même d'une humiliante perte d'autorité. Mais cela dit, si les négociations se compliquent et que Bruxelles pousse Theresa May à accepter un accord qu'elle ne veut pas, eh bien elle pourra toujours compter sur le Parlement pour user de son droit de veto et repartir sur la table des négociations.
Marina Daras, merci beaucoup, en direct de Londres. Pendant ce temps, en Allemagne, le bloc conservateur, donc CDU-CSU, de la chancelière Merkel exprime sa volonté d'ouvrir des négociations officielles sur la formation d'une nouvelle grande coalition avec le Parti social-démocrate, lequel devrait cependant se donner plusieurs jours encore supplémentaires de réflexion pour tenter de former cette grande coalition. Une estimation de MSF sur le nombre de victimes Rohingyas au mois de septembre en Birmanie. Au moins 6700 personnes tuées entre fin août et fin septembre au cours d'opérations de l'armée birmane. Médecins sans frontières estiment que le bilan pourrait être encore plus lourd. Gwenola Serou, responsable de la cellule des urgences à MSF, était au Bangladesh au mois dernier. Elle est interrogée par Valérie Crova.
Au vu de ce que notre étude décrit, c'est vraiment l'extrême violence. Hein. 69% ont été abattus, 15% ont été brûlés. Et 9% étaient battus à mort. Ça décrit des violences exceptionnelles. On peut parler de purification ethnique, ça répond à la définition.
Parmi les témoignages qui ont été recueillis, des réfugiés expliquent que des familles ont été enfermées dans leur maison, que l'armée a mis le feu.
On l'entend, hein, c'est ce que nous rapportent encore une fois les récits de nos patients. On parle des militaires birmans, des gardes frontaliers qui ont perpétré ces massacres.
L'armée birmane donnait jusqu'à présent un bilan de moins de 400 morts. On est bien au-delà selon vos estimations?
Bien sûr, et encore une fois, ce sont nos estimations les plus basses de ce qui ressort de nos enquêtes.
Voilà, Gwenola Serou avec Valérie Crova. L'actualité en France avec d'abord le vœu du gouvernement, l'intention d'intégrer une diversité de points de vue dissonants dans le nouveau Conseil national du numérique, dont la composition a été détaillée dans le journal officiel lundi dernier. Or, deux jours plus tard, il fait machine arrière ce même gouvernement. La présidente du Conseil, Marie Ekland, est priée de revoir sa copie en cause. Une nomination notamment de la journaliste et essayiste Rokhaya Diallo, contestée par certains comme une militante de ce qu'on appelle le racialisme ou encore du féminisme décolonial en France. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, alors le pari de la diversité se heurte parfois à des personnalités, des opinions qui manifestement ne passent pas.
Alors une précision tout d'abord, hein, à aucun moment le nom de Rokhaya Diallo n'apparaît dans ce communiqué hier soir du secrétaire d'État Mounir Majoubi quand il explique que les nominations qui avaient été officialisées lundi ne donnent pas au Conseil la sérénité dont il va avoir besoin pour travailler. Mais c'est clairement bien autour de Rokhaya Diallo que la polémique a gonflé dès lundi matin, alimentée par la droite, la députée Les Républicains Valérie Boyer en tête, mais aussi cette frange de la gauche proche de Manuel Valls et du Printemps Républicain, à qui les positions de la militante antiraciste, féministe et anti-islamophobie donnent depuis longtemps de l'urticaire. Il lui reproche pêle-mêle de ne pas avoir été favorable à l'interdiction du port du voile à l'école, de dénoncer régulièrement une forme de racisme d'État dans nos institutions et notre police. La jeune femme, en fait, est depuis des années la bête noire de ceux qui dénoncent régulièrement les islamo-gauchistes et qui rappellent aussi que Rokhaya Diallo, en 2011, avait signé une pétition critiquant déjà l'unanimisme du soutien à Charlie Hebdo et à ses articles et dessins jugés anti-musulmans. Mais Rokhaya Diallo, c'est aussi une voix qui porte dans le milieu intellectuel et médiatique, l'une des rares à pouvoir à la fois publier des livres reconnus sur le racisme en France et être chroniqueuse dans l'émission de télé « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. Début novembre, elle était aussi la seule française invitée par le couple Obama pour la soirée de lancement de leur fondation à Chicago. On l'a aussi vue plus récemment à la tribune d'une conférence de l'ONU en Égypte. Mais cette voix pose visiblement problème en France au point de voir le gouvernement reculer donc sur sa nomination. Dernier écho de cette polémique assez inattendue, Antoine, Rokhaya Diallo a reçu sur Twitter le soutien d'Elisabeth Lévy, la rédactrice en chef du très à droite journal en ligne Causeur. Elle parle d'une chasse aux sorcières indigne menée contre celle avec qui elle reconnaît pourtant n'être d'accord en rien. Je me battrai pour qu'elle puisse défendre ses idées, tweet Elisabeth Lévy, comme une leçon adressée au gouvernement qui n'a pas voulu le faire.
Camille Magnard, merci beaucoup. On passe à cette deuxième conférence des territoires qui se tient depuis ce matin à Cahors. Cahors, préfecture du Lot. Outre le Premier ministre, il y a 13 ministres qui ont fait le déplacement. Édouard Philippe a notamment dévoilé un plan, le plan du gouvernement pour l'accès de tous à un bon haut débit Internet d'ici 2020 et un très haut débit en 2022. Il y a 100 millions d'euros supplémentaires qui vont être débloqués pour les foyers les plus isolés. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
Alors bon, il s'agit bien de réduire là la fracture numérique. C'est important évidemment pour tous les habitants des territoires, mais c'est sans doute aussi loin d'être la première préoccupation des élus qui sont aujourd'hui rassemblés à Cahors.
Oui, l'accès au numérique aujourd'hui, a expliqué tout à l'heure Édouard Philippe, c'est aussi nécessaire qu'en son temps l'accès au téléphone ou à l'électricité. Et donc il faut donner à tous les Français les moyens d'avoir une bonne connexion, coûte que coûte. Le Premier ministre a rappelé les objectifs, le haut débit pour tous en 2020, le très haut débit 2022. Pour ça, le plan numérique d'un montant de 3,3 milliards d'euros sur le quinquennat sera déployé dans sa totalité, a-t-il assuré. Puis, il y a cette annonce, effectivement, de 100 millions d'euros pour les foyers les plus isolés. Ça doit permettre de financer soit une connexion satellite, soit un accès via une boucle locale radio. Bref, il s'agit là de résorber un des facteurs de la fracture entre les territoires. Ça, évidemment, tout le monde s'en félicite ici. Mais c'est loin de gommer les nombreux points de friction entre l'État, représenté par le gouvernement, et les collectivités territoriales. Il y a d'abord le cadre budgétaire contraint, fixé par Emmanuel Macron. Cet été, il demande aux plus grandes collectivités de faire 13 milliards d'euros d'économies sur leurs dépenses de fonctionnement. Or, nombre d'entre ces collectivités expliquent avoir déjà fait d'importants efforts ces 10 dernières années. Il y a aussi la question de la taxe d'habitation, compensée à l'euro près pour les deux prochaines années. Mais après, demande un élu, qu'est-ce qui se passe après? On sait que l'État a tendance à ne pas honorer ses engagements. Le problème, explique un autre élu, c'est qu'on sent une vraie tendance de l'État à vouloir reprendre la main sur les finances et sur les processus de décision, une tendance à la recentralisation avec une technostructure à Bercy toute puissante qui impose sans cesse des normes supplémentaires à mettre en place sans que soient transférés les moyens financiers pour le faire. En résumé, il faut faire sans cesse beaucoup plus, beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et toutes ces contraintes imposées par l'État depuis Paris ont tendance à générer une exaspération croissante chez de nombreux élus locaux. C'est apparemment ce qu'ils ont expliqué ce matin lors de réunions à huis clos au Premier ministre.
Merci beaucoup Stéphane Robert. À vos côtés, Sophie Pantel, présidente socialiste du département de la Lozère. Bonjour madame. Vous m'entendez?
Oui, je
très
vous
bien.
Entends.
Bonjour madame. Est-ce qu'à Fraissinet-de-Lozère, dont vous étiez maire il y a quelques années, on a le haut débit?
Non, alors non. J'étais maire au Pont de Montvert. Enfin, c'est maintenant les trois communes ont fusionné. Voilà.
D'accord.
Oui, bon. Oui. On a du haut débit, mais bon, c'est du 512 hein, à partir du central téléphonique et ça reste un débit limité, d'autant plus que dans nos territoires de montagne, souvent sur partir du central téléphonique, on a ce qu'on appelle des complexeurs, c'est-à-dire plusieurs personnes sur la même ligne de téléphone. Donc ça fonctionne très bien pour le téléphone, mais pour le haut débit, le signal s'affaiblit au fur et à mesure des kilomètres et donc ça ne permet pas d'avoir un bon débit permettant de charger correctement, de télécharger correctement.
Est-ce que c'est votre problème principal aujourd'hui ?
Oh non, dans des territoires comme les nôtres. Alors, en tout cas, c'est la préoccupation essentielle des entreprises. Moi, lorsque j'ai une entreprise qui arrive sur le territoire, avant même de demander de la téléphonie mobile ou d'autres services hein, qui sont aussi essentiels comme matière d'éducation pour les enfants ou pour la santé, la première question, c'est est-ce qu'il y a la fibre ou en tout cas, est-ce qu'il y a un moyen de d'avoir du très haut débit sur ce territoire. Je crois que nos territoires de montagne, moi, la Lozère est classée 100% hein, territoire de montagne. Je le disais ce matin au Premier ministre, sont des territoires d'excellence parce qu'on a une qualité de vie exceptionnelle, un air pur, la sécurité, enfin une vie sociale, associative très riche et avec vraiment de la solidarité sur ces territoires. Mais à un moment donné, pour pouvoir travailler aujourd'hui, il faut avoir des outils comme la fibre pour pouvoir mettre en place du coworking, du télétravail et des métiers en fait qu'on n'imagine même pas et sortir finalement de filières économiques classiques comme l'agriculture, le tourisme, l'artisanat. Bon, nous, on a quelques niches quand même économiques un peu particulières. Mais en tout cas, grâce à la fibre, ça va nous permettre d'accueillir des urbains ou en tout cas de nouveaux habitants qui veulent profiter des atouts de nos territoires mais qui vont pouvoir y développer une activité économique.
Stéphane Robert.
Oui, est-ce que vous êtes prête à signer, Sophie Pantel, le contrat avec cette exigence de 13 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat que veut vous faire signer le gouvernement?
Alors moi, pour le moment, je ne suis pas prête à le signer parce que je considère que d'abord, il y a la libre administration des collectivités et recevoir des directives de la part de l'État qui, depuis des décennies, ne vote pas un budget en équilibre alors que c'est pas notre cas. Nous, dans les départements, on vote des budgets en équilibre. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts pour par rapport aux comptes publics de la nation ces dernières années. Moi, j'attends de voir ce qu'on nous demande. Personnellement, sur mon département, ça fait 3 ans que j'ai beaucoup contraint déjà mon fonctionnement. Donc j'espère qu'à minima, on va en tenir compte pour l'avenir. Et en tout cas, à un moment donné, il faut que l'État respecte aussi ses engagements. Et je pense en particulier aux AIS, aux allocations individuelles de solidarité. Alors on parle beaucoup du RSA, parce que ça impacte la plupart des départements, et notamment les départements urbains, mais chez nous, dans des départements de montagne, c'est l'APA, donc l'allocation donc pour les personnes âgées qui pèse le plus lourd dans nos budgets.
Est-ce que vous avez sentiment d'une volonté de recentralisation, comme l'exprime un certain nombre d'élus locaux?
Oui, je crois qu'il y a une volonté de recentralisation et à la fois on ne cesse de nous donner soit des nouvelles obligations, soit des nouvelles compétences, de nous les transférer et sans forcément transférer les moyens. Donc on a vu le cas avec les mineurs non accompagnés. Je prenais le cas, c'est une anecdote peut-être pour beaucoup, mais par exemple sur le moustique tigre, on se retrouve en compétence sur des aspects sanitaires. Le sanitaire doit relever, pour moi c'est une compétence régalienne de l'État à partir du moment où la santé de nos concitoyens est en jeu. Voilà, donc et c'est sans cesse sans contrepartie. Donc c'est vrai que tout à l'heure vous disiez il faut faire plus avec moins. Ça fait des années qu'on gère la pénurie et qu'on fait plus avec moins. Et pourtant, la réponse des départements au quotidien dans la vie de nos concitoyens, elle est essentielle. C'est les routes, c'est les collèges, c'est les politiques jeunesse, c'est la vie associative. On voit bien qu'on crée même les conditions du développement économique avec un dossier comme la fibre, comme on a pu signer ce matin avec mes collègues de l'Aveyron et du Lot.
Il y a un problème de confiance avec ce gouvernement ?
Non, pour moi, il n'y a pas plus un problème de confiance avec celui-là qu'avec un autre. Je pense que ça fait des années que l'on a peut-être un peu trop les mêmes personnes dans les ministères en centrale, qui, quels que soient les gouvernements, préconisent la même chose et ne sont pas à l'écoute des territoires. Moi, je rêverais d'une vraie politique d'aménagement du territoire. Et en tout cas, ce gouvernement, il vient d'arriver, il faut lui laisser aussi le temps. En tout cas, bon, moi, je suis dans cette posture-là et pas du tout de vouloir tout critiquer immédiatement. Je pense que c'est pas très constructif. Mais j'espère qu'au-delà des annonces, ben on aura des actions très concrètes et en tout cas des réalisations et des vrais moyens qui nous seront donnés pour nous accompagner.
Merci. Merci beaucoup, merci Sophie Fontaine, d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. Merci à Stéphane Robert, qui était avec Benjamin Chauvin, donc depuis Cahors. La grippe est entrée en phase épidémique en Île-de-France. C'est la région la plus touchée par la maladie. C'est ce qu'a dit ce matin Santé publique France, bulletin hebdomadaire. 8 des 12 autres régions métropolitaines sont, elles, en phase pré-épidémique. Ça va des Hauts-de-France à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en passant par la façade atlantique. La météo, pluie et averses localement orageuses sur une grande moitié nord du pays. Ailleurs, un temps qui reste couvert, sauf près de la Méditerranée. Température de 6 à 17 degrés. Édition qui s'achève, réalisée avec M. Léchili. Et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.